Bon, le ministre de l'Éducation, M. Roberge, a annoncé hier le plan de la rentrée. On devrait être plus précis pour dire qu'essentiellement, c'est un plan sanitaire. Donc, des mesures pour ce qui est du port du masque, la distanciation, quoi faire si on a des cas de COVID dans les écoles. Ce qui était important de faire, là, ce qui est la phase numéro un, une fois qu'on a dit ça, la deuxième question, c'est comment ça va se passer à l'école? Quel est le plan pédagogique? Comment on va s'occuper des enfants qui, par exemple, ont déjà des retards ou encore ont accumulé des retards depuis le printemps dernier? Et comment on va pouvoir donc passer en mode école? Parce qu'on convient tous que c'est important que les enfants retournent physiquement à l'école. Que ce soit des enfants qui ont des difficultés ou des enfants qui ont, je dirais, un parcours régulier pour qui ça va bien, mais tu as besoin, à un moment donné, de te retrouver avec les autres. J'en parle avec Égide Royer, que vous connaissez bien, psychologue. Monsieur Royer, bonjour.
Bonjour.
Là, c'est le temps de passer à l'étape numéro 2, là.
Oui, écoutez, la phase 1, c'est comment revenir à l'école de manière sécuritaire. La phase 2, c'est comment réussir à l'école dans un contexte de pandémie comme on a connu. Et exemple de question, il y a multiples éléments, mais exemple de question qui me revient, comme vous venez de le dire, avec un gros retard scolaire. Et l'autre grosse question, qui est susceptible de ne pas revenir? Là, c'est tous mes jeunes de 14 à 17 ans, là, secteur des écoles secondaires ou éducation des adultes. Ne serait-ce que ces deux cibles-là, ça implique des interventions très concrètes et le plus tôt possible.
OK, mais alors, prenons la première cible. Pour ceux qui ont, par exemple, développé, accumulé des retards depuis la pandémie, comment on les aide, comment on intervient auprès d'eux?
Bon, normalement, il va y avoir un genre de mise à niveau. Maintenant, que vous enseignez en deuxième année, vous, là, il va y avoir une mise à niveau avec vos élèves de deuxième année. Et vers la fin septembre, ou peut-être même avant, vous allez voir que vous avez 3, 4, 5, 6 petits dans votre classe qui, de toute évidence, ont des niveaux de lecture de début, milieu, première année. Et ils ont un retard évident en lecture. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des études très longues pour savoir qu'être en retard en lecture en deuxième année, si ça se maintient, on va avoir un problème. Donc, ça implique que les orthopédagogues puissent intervenir le plus rapidement possible. Et ça peut impliquer des mesures. Je regarde ce qui se passe en Grande-Bretagne. Ils ont dégagé 1 milliard de livres sterling sur, entre autres, un programme qui est un programme de mentorat et de tutorat. Ça donnerait l'allure ici au Québec que moi, étudiante de deuxième année de cégep, je deviens tuteur, je ne sais pas, mais de deux petits de première année ou de deuxième année qui ont certaines difficultés en lecture. Et ça implique aussi l'accès beaucoup plus rapide aux services professionnels parce que souvent, ce n'est pas nécessairement une question d'apprentissage. Il y a d'autres types de difficultés que des petits de maternelle ou de première ou de deuxième année peuvent vivre et qui influencent la réussite scolaire.
Mais là, est-ce qu'on est en train de rêver en onde, M. Royer, ou si ça peut se faire et si ça peut se faire, pourquoi ça ne s'est pas fait avant?
Ah, il semblerait que la COVID va donner des opportunités. Il y a des fenêtres d'opportunités qui s'ouvrent, okay, avec la COVID, là. Regardez, j'ai l'impression qu'au moins un des effets positifs de la COVID, c'est qu'on ne sera plus dans la même situation qu'à mi-mars, là, concernant l'enseignement à distance. Là, c'était pas fort, pas nécessairement très, très fort partout, l'enseignement à distance. Je présume qu'on se mettra au mois de mars 2021. Notre façon, notre infrastructure, nos manières d'enseigner à distance vont s'être améliorées. Concernant les élèves en difficulté, regardez, un exemple, puis moi j'ai participé avec les membres des présidents des ordres professionnels à une demi-journée de travail avec le ministre là-dessus, là, au début juillet. Prenez l'exemple du nombre de semaines que passent les professionnels à évaluer puis à donner des codes aux enfants, aux adolescents, pour avoir du financement au niveau des centres de services scolaires, puis gérer la convention collective des enseignants, là, genre Steve compte pour deux élèves, etc. Là, il y a une demande très nette qu'on leur a fait, qu'on a fait au ministère, en disant, écoutez, oubliez les codes cette année, reconduisez ce qui a été fait l'an passé, et l'orthophoniste, là, au lieu de passer le mois de septembre au complet à évaluer des enfants des fins de code, là, qui interviennent tout de suite auprès des enfants, entre autres, de 4-5 ans, maternelle 4 ans, maternelle 5 ans, qui n'ont pas été capables d'être suivis en orthophonie l'an passé parce que presque tout était fermé à compter de la mi-mars. Voyez-vous, il y a des changements dans le système qui risquent peut-être de demeurer. Écoutez, à problème majeur ou à force majeure, ça prend des interventions qu'on n'avait pas l'habitude de faire ou qui n'étaient pas nécessairement là.
OK. Parlons du deuxième scénario qui concerne cette fois ceux et celles qui seraient tentés de décrocher, de ne pas revenir.
Bon, regardez, là, on a 9 000 jeunes. Le dernier chiffre qu'on a, il y a 9 000 jeunes qui sont pas revenus à l'école et qui n'avaient pas de diplôme. Ça, c'est le dernier chiffre de l'an passé. Bon, c'est plusieurs grosses écoles secondaires. On a toujours eu un taux de décrochage important, particulièrement chez les garçons. Bon, ceci étant dit, je vais faire le lien avec un commentaire qu'on a eu la semaine passée. Certaines organisations disaient remettez le début de l'école, je ne sais pas moi, après la fête du travail. Et au contraire, moi, j'ai suggéré hier et avant-hier que, au contraire, on devrait demander à certains enseignants, entre autres du secondaire, de rentrer plus tôt, quitte à les payer, compte tenu qu'ils ne sont pas rémunérés avant le 23-24 août. Parce que si vous enseignez au secondaire ou l'éducation des adultes, vous connaissez très bien Julie, Pierre, puis François, puis Geneviève. Écoutez, déjà le lien avec l'école et l'éducation des adultes, c'était pas très, très fort. Écoutez, on les a perdus dans la brume, ceux-là, depuis la mi-mars. Ça prend un contact personnel, contact personnalisé pour être capable de voir quel genre d'été ils ont passé, quel genre de période ils ont passé, en disant « on t'attend à l'école vers la fin d'août, début septembre, c'est quelque chose d'important, on va faire en sorte de te donner un coup de main et de donner condition. » J'ai des jeunes là-dedans qui ont commencé à travailler. Et n'oubliez pas qu'au Québec, l'école n'est obligatoire que jusqu'à 16 ans. Le même problème ne se présente pas comme ça en Ontario où l'école est jusqu'à 18 ans. Donc, décrocheur scolaire, ça impliquerait une intervention durant le mois d'août déjà pour établir un contact, pas simplement constater qu'ils ne sont pas là à la fin d'août ou au début septembre lorsque les cours commencent.
Bon, il y a beaucoup de profs et aussi beaucoup de parents qui m'ont écrit en disant, pour ce qui est de sport-études ou encore dans le cas de certaines options, compte tenu des mesures sanitaires, ça va être difficile à appliquer. Bon, je ne sais pas, sur la patinoire, dans des vestiaires, dans des gymnases ou encore carrément dans des salles parce que là, on a deux groupes puis donc des élèves qui ne sont pas en temps normal ensemble. Comment vous voyez la gestion de ces options puis de ces spécialités de certaines écoles?
Moi, j'ai l'impression que ça va être les directives, évidemment, de la santé publique qui vont être déterminantes là-dedans. Comment est-ce que je prendrais une décision, comme directeur d'école, de faire telle chose, comme direction d'école, si la santé publique dit ça ne se peut pas. Je regarde ce qui se passe. Moi, je suis junior majeur, là, au Québec, et il y a eu des hauts et des bas, il y a des arrêts, il y a des ouvertures. Tout ça était toujours, c'est pas tant l'association de baseball majeur, qui au Québec qui dirige ça, c'est toujours des indications de la santé. Mais ceci étant dit, il y a une pertinence, évidemment, à offrir le sport-études, hors-études, etc. Et je regarde, entre autres, la situation, parce qu'il y a un lien avec les jeunes de 4e et 5e secondaire, là, qui risquent d'avoir une école par alternance, là, hybride. Une journée, je suis en classe, l'autre journée, je suis à distance. Il va falloir vraiment examiner sérieusement la possibilité d'avoir une présence à tous les jours de tous les jeunes, quitte à compléter l'après-midi par une forme de sport-études, d'art-études. Là, ça deviendra une question de respect de bulle. Les indications de la santé vont être déterminantes. L'autre élément, pour certains jeunes, c'est vraiment une source de motivation importante que d'être dans un sport-études au niveau de la réussite scolaire. Il va falloir en tenir compte parce qu'il y a un lien avec le décrochage scolaire dont on a parlé il y a quelques instants.
OK. En terminant, qu'est-ce que vous savez d'expérience ailleurs dans le monde sur l'école, je dirais, foyer d'éclosion, vecteur pouvant donc entraîner des problèmes de contamination, de contagion plus élevés. Autrement dit, est-ce que l'école est un élément important qui peut être dangereux et donc propagé, ou si finalement on se rend compte que c'est pas si pire que ça avec les enfants?
Moi, je suis abonné au journal au Monde, au New York Times et l'ensemble des autres journaux là, qu'on suit au Québec. Les indications, c'est que lorsque dans la communauté la transmission est limitée, on se retrouve normalement dans une situation avec les paramètres qu'on a eu hier, ça devrait bien fonctionner. Mais si vous êtes directeur d'une école en Géorgie ou en Floride, là, c'est un autre paire de manches, là. Mais si la transmission dans la communauté est relativement faible, c'est quelque chose qui devrait bien fonctionner d'après ce qu'on en lit, d'après ce que je dis, moi, là, au niveau des études. L'autre élément, quand même, étant que, indépendamment même de la transmission, je regarde la position des Nations Unies et de bien d'autres mondes, de bien d'autres organismes, les écoles doivent être les premières à ouvrir lorsqu'on déconfine et doivent être les dernières à fermer. C'est extrêmement important au niveau de l'aspect développemental, cognitif, affectif, social et autres des enfants. Donc, c'est un service qui apparaît essentiel. Mais, dépendamment des études qu'on a, si vous avez des chiffres qui viennent des États-Unis, c'est très différent des chiffres qui vont venir de Vancouver ou qui vont venir d'Ontario ou du Québec.
C'est sûr. Merci beaucoup, M. Royer. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir. Égide de Royer, psychologue, à qui on parle régulièrement, puis qui nous apporte un éclairage. Et je pense que c'est important. Là, on fait le tour des questions. Et puis c'est tout le volet pédagogique là, qu'il faut maintenant prioriser. Bon, je vais quand même vous rappeler du sujet, parce que là, on va débloquer nos circuits téléphoniques. Pour certaines personnes, depuis le mois de mars, on a décidé, elles ont décidé d'avoir des politiques très strictes, même avec leurs enfants. Puis tu sais, des gens là, qui suivent ça à la lettre, qui dérogent pas et qui sont, dans certains cas, là, se privent d'activités avec des amis, des parents, puis bon, des membres de la famille. Puis on le sait, ça s'est vu, là. Puis c'était correct au début, dans le confinement, on a été privés de vie sociale puis de vie familiale parce qu'on était confinés à une adresse, puis bon. Mais ça, quand même, on a décloisonné, on a déconfiné. Moi, je veux savoir comment ça s'est passé avec vos amis, vos voisins puis les membres de votre famille. Puis je donnais des exemples tantôt de gens qui disent, couple ici, ils veulent pas voir personne tant qu'il n'y a pas un vaccin. D'autres qui veulent pas recevoir personne, même à l'extérieur, en disant, non, c'est pas encore réglé. Puis d'autres, au contraire, qui ont des comportements pas très respectueux des autres. Tu sais, va te donner un bec pareil. Voyons donc, t'es ma belle-sœur. Il y en a de ça, là. Alors, je vais vous entendre là-dessus. Racontez-moi vos expériences. Puis, évidemment, tous ceux qui sont pour le masque, contre le masque, puis qui ne veulent pas le porter. En fait, quand on dit contre le masque, c'est le masque obligatoire. Puis quelqu'un qui dit, par exemple, moi, j'ai demandé à un membre de ma famille de respecter le 2 mètres. Puis, à 2-3 reprises, il n'a pas voulu. Puis, le ton a monté, puis ça a viré en chicane. 514-790-9850. 514-790-9850. Les normes sanitaires et les relations familiales, de voisinage ou d'amitié. On revient avec vos appels après ceci.